David Porter, je suis là avec mon épouse Perle. Nous n'habitons pas dans ce coin, mais derrière l'aéroport de Genève, côté France. Et nous nous réjouissons d'être ici. C'est un peu une première pour moi d'être dans une église où tout le groupe de louanges et tout le conseil a lu mon livre. Donc, quelque part, ça pourrait mettre de la pression supplémentaire, juste pour essayer de me rappeler ce que j'avais écrit. Et puis aussi par rapport aux attentes. Et on a passé donc une journée hier ensemble avec le conseil de l'église, avec les responsables. Et dans l'après-midi hier, on a testé ce que vous venez d'entendre. Donc là, c'était hier, c'était la répétition. Même les gens qui étaient en train de le faire ne savaient pas que c'était la répétition pour aujourd'hui. Ils ont découvert après. Et donc c'est une joie d'être ici. Au cas où vous n'avez pas entendu parler du livre, c'est comme ça, grâce à ma fille, il y a des dessins intéressants à l'intérieur aussi. Mais le sous-titre, donc, lui rendre le micro, point d'interrogation. Est-ce qu'on devrait lui rendre le micro? Qu'est-ce que Dieu dit sur nos pratiques de louange actuelles, sur notre culte, etc. Avec un sous-titre, un dialogue renouvelé sur les enjeux de la louange dans l'église locale. Donc on a plusieurs copies, là, exemplaires, là derrière, après, si vous voulez en procurer. C'est une autre joie, parce que j'ai entendu, donc, qu'il y a... Ok. Là, pour le mariage de notre fille, ce qui s'est mariée aussi avec un Brésilien. Mon épouse est née au Brésil, mais il n'y avait aucun lien avec le fait que nos enfants ont atterri là-bas. On a une troisième qui habite à Londres, donc voilà, personne n'habite plus à la maison. On est tout seul, très vieux, et voilà, la retraite arrive. Merci beaucoup pour voilà, la table technique. On avait quelques soucis hier et aussi ce matin. Donc le fait que ça marche, c'est déjà un miracle. Merci. Si je vous demandais qu'est-ce que c'est la louange, comment est-ce que vous répondrez? Si je vous posais aussi la question, où est Dieu pendant notre temps de louange? Où est Jésus? Est-ce qu'il était là avant qu'on arrive? Est-ce qu'il se pointe à un certain moment, après quatrième chant, par exemple? Est-ce qu'il est là uniquement lorsque je ressentis quelque chose sur le plan émotionnel? Est-ce que Dieu est loué dans le silence? Est-ce que Dieu est loué lorsque sa parole est lue, exposée? Lorsque j'ai passé, vous avez peut-être reconnu que je ne suis pas suisse, je suis pas français non plus. Je viens d'Irlande du Nord, et il y a 30 ans, je me trouvais comme jeune étudiant en théologie à Vaux-sur-Seine pour étudier la théologie. Ensuite, j'étais pasteur pendant quelques années en région parisienne. Je suis prof de musique, j'enseigne le piano et le chant. Et à un certain moment, après pas mal d'années d'expérience, je me suis retrouvé à faire un doctorat sur tout ce qui est louange et culte aux États-Unis, un doctorat pratique. Oui, ça existe. Donc, avec un projet chaque fois en église locale. Et donc, le livre, c'est un peu le fruit de tout ça. Aussi du fait que je fais partie du Forum de louange pour la Suisse romande depuis une quinzaine d'années. Donc, ceux qui sont venus à des journées de musiciens ont déjà peut-être vu mon visage. Ou à la journée One, j'étais au piano avec Exo. Donc, entre autres. Est-ce que vous mettrez vos chants favoris dans l'idée de louange? Peut-être vous avez assisté à un événement où vous avez dit « Ah, mais c'était super, on a vécu ça, et puis c'est magnifique, ça sera chouette si on pouvait vivre ça en église locale, en revenant. » Et donc, on pourrait penser que peut-être un style de louange, c'est un style de musique. Je préfère un certain instrument. Et moi qui ai passé et dans les milieux traditionnels et dans le milieu plus, donc d'église un peu plus libre, croyez-moi qu'on peut s'attacher à un instrument, peu importe quel est l'instrument, mais on décide que c'est ça le style de musique qui fait la louange. D'autres mots, Dieu aime un certain style. Et si on ne fait pas exactement comme on devrait faire, alors Dieu va peut-être pas se manifester. Mais peut-être qu'une meilleure question que cette question de style et de qui finalement vient du goût personnel, c'est est-ce que quel style nous aide à adorer Dieu ? Ou pourquoi un style devrait-il chasser un autre comme la seule manière de faire le culte correctement ? Un écrivain et théologien, Harold Best, a dit « Dieu n'est pas occidental ni oriental, il n'est pas exclusivement le Dieu de la culture classique ou primitive. Dieu est le Seigneur de la pléthore », un mot grec qui veut dire d'une grande panoplie de choses. Dieu, le Dieu de la diversité, le rédempteur du pluriel. Il n'y a pas un langage singulier au style artistique ou musical qui, mieux que tous les autres, peut capturer et répéter la plénitude de la gloire divine. Peut-être vous avez entendu de Sébastien Korn, qui a écrit plusieurs chants bien connus dans le milieu francophone. Lorsqu'il était à la journée du musicien avec nous il y a quelques années, à Lausanne, il a dit « On est devenus les plus grands consommateurs de la louange et par conséquent de l'Église. On a besoin, dit-il, d'une louange christocentrique plutôt que anthropocentrique. Mais on est devenu un tout petit peu consommateur d'une louange anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur moi. Si ce n'est pas notre leader, on ne va pas louer. Si ce n'est pas ma chanson préférée, non, je rentre à la maison un peu confus et un peu frustré. » Il a dit « Ne perdons pas notre louange dans les choses créées. » Donc, si je vous posais une autre question maintenant, quelle est votre théologie de la louange ? Oh, est-ce que ces deux mots vont ensemble ? La théologie, en quelque sorte, c'est qu'est-ce que je crois sur Dieu ? Et lorsque je marche avec le Seigneur pendant plusieurs années, et pas mal d'années, normalement, Dieu, il devrait devenir plus grand. Donc ma théologie, quelque part, sans toucher aux fondamentaux, bien sûr, devrait en quelque sorte s'agrandir et s'ouvrir un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on croit sur Dieu ? D'où vient notre pratique actuelle ? Et puis, que dit l'Écriture dessus ? Est-ce que notre louange est plutôt basée sur une mode, une façon de faire, ou qu'est-ce que Dieu dit dessus ? Est-ce qu'on parle de son histoire ou est-ce que c'est toujours mon histoire ? Seigneur, je veux que tu fasses ceci pour moi ce matin. Je veux que le prédicateur soit clair et pas trop long. Je veux que les chants soient actuels, et surtout avec mon chant favori, ça sera bien. Et si c'est mon leader préféré devant, ça sera super. Mon histoire, comme ça je peux mettre quelque chose à Instagram après. On a passé un super moment de louange. Comme si mon évaluation était basée sur ce que moi j'ai ressenti et sur ce que moi j'ai attendu. L'idée en posant la question sur la louange, c'est qui a les droits d'auteur sur la louange ? Dans le milieu de chant, on veut savoir qui a les droits d'auteur tel ou tel chant. Mais qui a le droit d'auteur sur la louange ? Qui est l'initiateur ? Est-ce que c'était Graham Kendrick dans les années 70, à l'autre bout des États-Unis ? Est-ce que c'était tel ou tel théologien ? Lorsqu'on regarde la Bible, on voit que c'est Dieu qui était l'initiateur. C'est lui qui avait l'idée. Le fil conducteur dans la Bible montre ce que Dieu pense de la louange et ce qu'il avait prévu. Les Écritures, servent en tant que source primaire pour découvrir l'idée de Dieu sur la louange. Plutôt qu'un sujet périphérique, c'est-à-dire un petit sujet, comme pensent certains chrétiens, la louange, l'adoration, le culte, et je souligne le fait de les mettre tous ensemble, est lié à toutes les questions importantes de la théologie biblique, telles que la création, le péché, l'alliance, la rédemption, le peuple de Dieu et l'espoir futur. La louange dans l'Église locale, c'est une rencontre communautaire avec Dieu. Donc, Dieu a pris l'initiative. Oui, pardon, j'avais oublié qu'il y avait cette autre citation. La diversité musicale reflète les aspects variés de la nature divine. Dieu est transcendant, ça veut dire il est tout autre, et immanent, tout près. Il fonde des montagnes et les lilas, nous l'adorons en tant que créateur et rédempteur, roi et père, comment peut-on penser qu'un seul genre de musique peut exprimer de manière adéquate la plénitude de la gloire de Dieu ? Le désir de Dieu dans l'Ancien Testament était de rencontrer son peuple. Il y avait donc des rencontres informelles, par exemple Jacob, avec Dieu. Dieu s'est manifesté à des individus. Il a invité Abraham à regarder les étoiles et lui promet de faire de lui le père d'une grande nation et ensuite l'invite à le suivre. Jusque-là, vous ne saviez pas à quoi ressemblait Abraham. Voilà, il avait une barbe. Dieu s'est révélé à Moïse. Il a dévoilé son nom divin, on l'a chanté tout à l'heure, Yahweh, un nom intime de Dieu exprimant le caractère dynamique tel qu'il est révélé dans l'histoire. Un nom saint, un nom à part, dans la présence de qui on doit enlever ses sandales. Là où on le rencontre devient un lieu saint, un lieu à part. Et c'est révélé par des rencontres communautaires, comme l'Exode. Dans des plaies d'Égypte, la division de la mer Rouge, ses rencontres avec Moïse au mont Sinaï, Dieu s'est manifesté. Et lorsqu'il s'est manifesté, par exemple, vous avez la patience, c'est très bien. Lorsqu'il s'est manifesté, il a ensuite demandé une réponse. Il s'agit donc du mouvement de Dieu envers l'homme et non pas l'inverse. Si Dieu était l'initiateur de la louange, du culte, de l'adoration, c'est lui qui s'est manifesté en premier et a demandé ensuite une réponse. Il se donne beaucoup de mal pour assurer une relation avec ceux qu'il choisit. Il a invité le peuple d'Israël à vivre la délivrance en Égypte et pendant l'exode de l'Égypte et ensuite les a conduits au mont Sinaï pour lui rendre un culte. Il a dit, vous avez vu vous-même comment j'ai traité les Égyptiens, comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle, pour vous faire venir jusqu'à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Donc l'idée dans l'Ancien Testament, qui a continué dans le Nouveau, c'est qu'il y avait ce dialogue pendant le culte, pendant la louange, où Dieu parle, Dieu se manifeste, Dieu se révèle, et l'homme répond. Le peuple d'Israël ayant répondu aux actes puissants de Dieu en Égypte et à sa délivrance de leur communauté, de l'esclavage et de la mort, à la mer Rouge, ont répondu par la louange, par le culte. Ils ont commencé une nouvelle étape dans sa relation avec ce Dieu à la montagne de Dieu. C'est intéressant que le tabernacle s'appelait la tente de la rencontre. Ça change un tout petit peu votre idée peut-être de ce que vous allez faire en arrivant à une église un dimanche matin, lorsque Dieu veut te rencontrer, lorsque Dieu veut vous rencontrer. Et en fait, le tabernacle était une espèce de rappel visuel tous les jours. Imaginons, on sort de notre tente parce qu'on est dans telle ou telle tribu, et tous les matins, on regarde, « Ah, il y a le tabernacle !» Le Seigneur veut que je me rappelle de qui il est. Et puis, on ne pouvait pas s'approcher n'importe comment. Il y avait une hiérarchie d'accessibilité du camp extérieur vers le lieu très saint. Le but de la tente et ensuite du temple était de permettre à Dieu de demeurer parmi son peuple. Et tous servaient à souligner la personne et le caractère de Dieu. Les prescriptions biblique précise et détaillée pour la construction du temple et pour le culte dans l'Ancien Testament nous indique que les Hébreux devaient adorer Dieu dans les termes qu'il propose. Donc la louange, c'est une rencontre communautaire avec Dieu. Quelles sont alors les conséquences pour nous, pour nos cultes, pour nos pratiques? Est-ce que la louange est pour nous? Est-ce que la louange est pour Dieu? Si Dieu a initié la louange, c'est lui qui nous invite. Ce n'est pas donc une invention musicale des années 70, c'est une invitation. Est-il évident dans nos cultes, dans notre louange, qu'il est l'initiateur et l'objet de notre adoration? Ça fait quoi de commencer nos cultes? Est-ce qu'on sait qui on va rencontrer? Qui invite qui? Je rigole parfois avec des musiciens en disant, si on a correctement joué les trois premiers chants et on a bien fait le pont, monter peut-être de tonalité, Dieu va se manifester au quatrième chant. Comme si ça dépendait de nous, de nos pratiques, de notre performance. Mais ça change beaucoup de choses si on se rend compte que c'est Dieu qui est déjà là. Avant qu'on arrive, c'est lui qui nous invite. Un de mes profs, qui s'appelait Constance Chéry, a dit « Cela fait une grande différence entre qui est l'initiateur de la louange, car l'appel de Dieu transforme l'Église d'une réunion des esprits à une réunion avec le Dieu vivant. » Dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, une source importante pour comprendre la pratique du Nouveau Testament, on voit que le Christ est déjà présent lorsque nous nous rassemblons. Le 8e chapitre nous parle de Jésus qui sert dans le sanctuaire. Jésus qui sert dans le sanctuaire, parce qu'il est à la fois le prêtre, aussi celui qui loue Dieu, mais lui aussi l'adorateur adoré. Lorsque nous présidons le culte, lorsque nous on est responsable de louange, il ne s'agit plus de notre ministère, mais nous représentons le Christ. C'est lui qui est à l'œuvre. Il s'agit de son ministère. Il est le prédicateur, il est le responsable de louange. C'est le Christ qui l'a rendu possible, ce qu'on peut faire. Jésus est celui qui nous amène dans la présence de Dieu. Il est le conducteur de louange par excellence, il est le sacrifice et le prêtre, l'intermédiaire. Le fait que Jésus est notre grand prêtre est une idée du Nouveau Testament qui est enracinée dans l'histoire entière des actes rédempteurs de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit que la mort du Christ était le sacrifice ultime. Il était crucifié à la Pâque. Il est la personnification de l'agneau pascal, la lumière du système sacrificiel. On parle du rôle de Jésus qui est à la fois prêtre et sacrifice. Le ministère de Jésus est donc supérieur parce qu'il s'est offert lui-même comme sacrifice parfait auprès de Dieu. Jésus satisfait tous nos besoins de manière parfaite. Jésus, donc, nous amène directement dans la présence de Dieu. Ce n'est pas un musicien, ce n'est pas quelqu'un qui compose des chants, que je fais aussi un petit peu, ce n'est pas un être humain. L'accès au Père est rendu possible par Jésus. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement, dit l'Épître chapitre 7, verset 25, il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Ronman, un commentateur, soulignait que le fil conducteur à travers les cultures et les continents, à travers ou au sein des dénominations, même à travers des siècles, est le rôle du Christ ressuscité parmi son peuple qui dirige leur louange et adoration. Ça, c'est bien de le savoir. Parce que lorsque je passe dans beaucoup d'églises différentes et de cultures différentes, et on pose la question, c'est quoi la louange? On peut voir, s'il y a 9 chrétiens dans la salle, on va avoir 10 définitions différentes. Donc, comment comprendre ce que c'est la louange si à 5 km plus loin, il y a une autre église qui change quelque chose? Ou dans un autre pays? Si c'est Dieu l'initiateur, c'est lui qui sait ce qu'il fait, si c'est uniquement grâce à ce que Jésus a fait, ça enlève de mes épaules toute responsabilité. Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, dit l'Épître 2, verset 12, lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. » Ronman continue, il a dit, le Christ n'a pas uniquement ouvert le chemin pour nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Il ne nous montre pas simplement le chemin, mais il nous dirige de manière active dans notre adoration et nous amène vers le trône de Dieu. Jésus est donc présent, nous reçoit, nous parle, nous écoute, facilite nos prières et notre louange au Père. Et parce que Jésus est accepté par son Père, notre louange et jouit d'une acceptation parfaite. On ne peut plus alors parler de mon histoire, parce que c'est un dialogue, c'est une rencontre, il veut me rencontrer. Je n'ai pas alors à venir et faire tout ce que j'essaie de faire pour qu'il puisse venir et me toucher ou utiliser. Lorsqu'on regarde le résultat, la réponse à de grands événements de salut opérés par Dieu. Pour les Hébreux, c'était l'Exode. Pour les chrétiens, c'est la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus. Dans la louange, le peuple s'est mis à revivre l'histoire du salut de Dieu. Redire ou à remettre en scène l'histoire de la fidélité de Dieu. Se souvenir de manière participative. C'est pour ça que il y avait toutes ces fêtes. En Exode 13, verset 8, « En ce jour-là, vous expliquerez à vos enfants la signification de cette fête en disant « Tout cela, je le fais en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. » C'est pour ça que toute l'année, il y avait des fêtes pour, donc, où le peuple a pu se rappeler de la fidélité de Dieu dans telle ou telle circonstance dans le passé. De la même façon, Moïse, Myriam et les Israélites auraient chanté le chant de la rédemption après l'Exode d'Égypte. Ainsi chantaient les chrétiens le chant de la rédemption du péché en Jésus-Christ. L'Église primitive a donc chanté le chant du salut en redisant l'histoire par le contenu de leur culte. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle liturgie. Ce n'est pas un mot... peut-être hyper connu dans le milieu évangélique, on dit « surtout non, pas de plan ». Alors que finalement, c'est l'œuvre du peuple. Il y a un mot dans l'Épître aux Hébreux qui parle de Jésus, notre liturgos, notre liturgiste, notre responsable de louange. Donc en redisant l'histoire par le plan, par le contenu de notre culte, la musique dans la chrétienté était un moyen de se rappeler de ce que Dieu a fait et à répondre à son appel. Dieu se révèle dans la lecture ou dans le chant de l'Écriture. Je réponds par le chant et la prière. Et cette idée a marqué la tradition chrétienne dans la structure du culte dès le commencement du culte, ce qu'on appelait le rassemblement jusqu'à l'envoi. En tant que communauté, il y a aussi donc l'attente de rencontrer Dieu par la louange, par l'adoration, par la parole. Qu'est-ce qui alors a été le contenu? Est-ce que c'était que les chants? Est-ce que Dieu peut être loué aussi par les prières, par la prédication? Est-ce que Dieu peut être loué aussi un lundi matin à mon travail, à la façon dont je traite d'autres membres de ma famille ou mes enfants, mon voisin? Est-ce que Dieu est aussi adoré dans partie de ma vie. Commençons au Mont Sinaï, il y avait la lecture publique de la Torah, la récitation de l'histoire. La Bible, donc, est également une source, surtout les psaumes, de nos souvenirs de la fidélité de Dieu. Les évangiles racontent l'histoire du Christ qui lit l'Écriture dans la synagogue. Il est quasiment donc impossible de supposer que les églises du Nouveau Testament n'ont pas inclus aussi des lectures de l'Ancien Testament dans leur culte communautaire. Mais pas simplement n'importe comment la lecture de la parole, parce que la plupart des gens ne pouvaient pas lire. Donc ils n'ont pas sorti leur copie privée. Ils écoutaient la parole. C'est pour ça que je voulais tout à l'heure vous faire part de cette idée aussi d'écouter la parole. Et la louange personnelle. Je me trouvais à Genève il y a quelques années, c'était juste quelques mois avant le début du Covid, à traduire pour Graham Kendrick, qui a écrit peut-être 1000 chants au plus, dont il y a peut-être 60, 70 peut-être dans le recueil de Gem. Et il était donc ici avec nous pour la journée de musiciens. Et le dimanche matin, je traduisais pour lui à un culte à Genève. Et puis il a dit, ne venez pas à l'église pour louer Dieu. Donc le traducteur a dit, ne venez pas à l'église pour louer Dieu. Come worshiping. Venez en le louant. Autrement dire, ce n'est pas l'église tout seul que vous allez découvrir et vivre la louange. Quelle est la place de la louange secrète? Et puis il a continué à parler de Matthieu 6, l'importance que Jésus a attachée à la louange secrète, au culte personnel. Parfois on l'appelle comme ça. Comme j'ai dit, Dieu est aussi loué dans ma vie de tous les jours. Donc en conclusion, si on devait évaluer nos pratiques, si on devait évaluer nos pratiques, ce n'est plus une question de « je ne vais pas louer Dieu si ce n'est pas méchant, mon leader louange, mon style, je ne vais pas participer », mais est-ce que par nos pratiques, les adorateurs, c'est-à-dire nous tous, est-ce que les adorateurs vivent dans une obéissance croissante comme conséquence de leur rencontre avec Dieu? Ma louange, c'est de dire oui de plus en plus à ce que Dieu m'appelle à faire, ou à être, encore plus important. Un culte qui provient du cœur en réponse à qui Dieu est un culte qui déborde dans une vie sainte lorsque la musique s'arrête. On a regardé hier des questions d'évaluation pour le groupe qui planifie la louange ou le culte en entier, parce que vous avez compris que je pousse à une compréhension de la louange, l'adoration, le culte comme un tout. Et nous avons réfléchi à cette question, est-ce que nous avons cherché dans un esprit de prière, d'intention, de fidélité, à employer les aspects de culte trouvés dans l'Écriture qui semblaient être valorisés et nécessaires du point de vue de Dieu pour le culte communautaire? On a réfléchi à qu'est-ce que c'est un culte intergénérationnel? Qu'est-ce que c'est un culte qui reflète l'ADN de qui on est en tant que communauté locale? Parce que John Whitfield a dit « Aucun d'entre nous à part soi-même la perspective de voir le tableau entier. Pasteur, musicien, spécialiste de la louange, nous avons besoin de la coopération, de travailler en équipe et de rendre la décision collective centrale à notre travail. » La louange, c'est être satisfait de Dieu. C'est célébrer le Christ de manière communautaire, c'est redire et dicter l'événement du Christ. C'est laisser Dieu parler et agir dans le culte. C'est être en silence devant lui, c'est répondre à lui et à d'autres. C'est confesser le péché, c'est lire et méditer l'Écriture, c'est aussi offrir des prières d'intercession. Donc, ce n'est pas une question de programme de l'estrade qui va plaire ou non au plus grand nombre. Un théologien a dit « L'une des plus grandes découvertes de mon pèlerinage chrétien est venue avec la prise de conscience que l'importance primordiale dans la louange n'est pas ce que je fais, mais ce que Dieu fait. Dans l'adoration, c'est la présence de Dieu me parlant, agissant en moi. C'est dans l'adoration que Dieu me nourrit et prend soin de moi. C'est dans l'adoration qu'il me donne sa grâce, m'entoure de son amour, m'élève dans ses bras, m'affirme comme membre de sa communauté, m'envoie dans le monde avec une vision nouvelle de son œuvre et un souci nouveau de vivre pour lui. » Nous qui parlons sur la louange, souvent, nous avons plusieurs textes clés qu'on utilise souvent. Un, c'est Colossiens 3, 15 à 17. Je vous invite à le voir peut-être après. Mais il y a un autre, Romains 15, et j'aimerais terminer avec ça. Que Dieu, source de toute patience, de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, de même cœur, d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble.